Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce 20e épisode de votre émission sport préférée. Bienvenue sur Temps Additionnel, on est le 6 juin et vous écoutez Radio Esprit Occitanie. Et avec Alex aujourd'hui, on a pas mal de choses à traiter. Adichat à toi Alex.
Adichat Raphaël.
Au menu aujourd'hui, on a le rugby sous toutes ses formes. On commencera par le Stade Toulousain qui a triomphé ce week-end. Puis on ira aussi du côté du Toulouse Olympique pour le rugby à 13. Et on finira cet arc rugby par un point sur les mondiaux du rugby à 7 où nos Français et Françaises ont brillé, on va dire ça. En foot, les barrages d'accession à la Ligue 1 se sont terminés. On aura donc un grand retour en Ligue 1, un retour d'une légende en Ligue 1 la saison prochaine. On partira aussi au Mexique pour vous parler de la Kings League, pour faire un point sur les Français qui sont déjà éliminés, mais bon, on en parlera de toute façon. Et on va aussi revenir en Europe pour aborder les matchs de préparation de l'Euro 2024, car la date du début de la compétition arrive à grands pas, on a très hâte. Pour le tennis, on parlera évidemment de Roland-Garros avec un futur vainqueur inédit depuis 2004. C'est pas Federer, c'est pas Djokovic, c'est pas Nadal. Et évidemment, comme d'habitude, tous les Français éliminés. Viendra ensuite la MotoGP avec le Grand Prix de Catalogne. On fera aussi un dernier point sur l'événement de MMA qui se déroulera ce week-end. On y sera avec Alex. Et pour finir, un mot du Phoenix. On commence cette émission par l'avant-dernier match de la saison régulière avant les finales de Top 14 de nos joueurs du Stade Toulousain ce week-end. Les Rouges et Noirs affrontaient les joueurs de La Rochelle dans un derby fou où le match s'est terminé par un 31 partout. Dans les derniers instants, La Rochelle a réussi à accrocher son match nul pour conserver sa 5ème place au classement. Place si précieuse qui permet pour l'instant aux Rochelais de disputer les finales de Top 14. Le match avait bien commencé pourtant pour les Toulousains puisqu'ils menaient 13 à 4 dans le premier quart d'heure de jeu. Mais les Rochelais les ont rattrapés pour mener dans ce match 17 à 14 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, malgré les assauts toulousains, les Rochelais ils rentrent coup pour coup dans un match quand même assez tendu. Il y a eu beaucoup d'essais, mais il était quand même tendu. Donc, et quand on croit en avoir fini avec les Rochelais, c'est jamais fini parce que la pénalité validée à la 67e des Toulousains n'a pas suffi. Nos adversaires du soir en ont décidé autrement et un essai transformé à la 78e permet de recoller au score final. 31 partout, match nul donc sans grand impact pour les champions d'Europe fraîchement couronnés puisque derrière le Stade français a perdu face à Castres et ils ont bien perdu, donc Castres qui peut encore rêver de finale. Donc pour une fois qu'en tant que Toulousain on est content que Castres gagne, on va pas laisser passer ça, donc merci Castres. Et avec ce week-end, donc Toulouse valide donc quasiment sa première place, plus qu'à faire le job face au Loup cette semaine, et le tour est joué, j'ai envie de dire.
Bah écoute, moi j'étais au stadium contre le Stade Rochelet, et franchement je m'attendais pas du tout à ce que ce match se finisse à 31 partout. C'est un score symbolique, on est revenu au score 2 minutes avant la fin du match, c'était inespéré. Surtout qu'en plus à la toute fin, c'était la roulette russe pour savoir qui allait avoir la pénalité décisive. Il y a une faute des deux côtés, donc Mathieu Reynal a préféré en rester là, il a pas voulu... Mais bon, je trouve que le Stade Toulousain a mis du temps quand même avant de se réveiller parce que les Rochelais étaient bien partis pour gagner le match chez nous, sachant qu'on avait aligné l'équipe B. Alors c'est vrai que le Stade Rochelet avait aussi aligné quelques joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout qu'en plus le coach Ronan O'Gara avait mis Joe Danti sur le banc, mais on a eu sur le terrain des mecs comme Anton Astoy, Winnie Antonio, Joe Danti, Skelton Aldrit. Donc il voulait vraiment chercher cette victoire et espérer une qualification en play-off. Sauf que tu sais que c'est très compliqué de défier le Stade Toulousain à la maison. Oui, parce que là, ce match nul marque donc une saison. On a fini invaincu à domicile, donc ce type de performance reste à souligner. Et on a pu voir Ange Capoit, ce qui enfin est parvenu à étaler sa classe avec ses deux essais. Franchement, je l'aime beaucoup ce joueur pour son talent avec le Stade et l'Italie. Mais malheureusement, pour moi, il est encore trop fragile sur le terrain. T'sais, on le sait, il n'a pas été épargné par les blessures cette saison, plus ou moins graves. Et à propos de justement dernier match à la maison, il y a eu les adieux de Sofiane Guitoun, qui joue au Stade Toulousain depuis 2016 déjà. Et on a eu les départs de Tauzin, qui rejoint Clermont. On a face à Lélé, qui commence à se faire vieux. Et puis on a Maxime Duprat aussi, qui quitte le Stade Toulousain.
Donc une saison pleine d'adieux. On sait que Sofiane Guitoun, c'est une légende aussi du Stade Toulousain. Et tu l'as dit, les deux équipes, c'était pas les équipes type, mais ça nous a quand même donné un bon match. J'avais peur justement que ce soit un match assez fermé, où les joueurs se libèrent pas trop. Mais franchement, ils nous ont régalé. Au niveau du score, évidemment, on est pour Toulouse, mais au niveau du match, c'était quand même incroyable. On va faire un petit point sur le top 14, parce qu'on en a parlé un peu. Le Stade Toulousain reste premier avec 76 points, suivi 5 points derrière par le Stade français, 71 points. Le RCT Toulon, 68 points. Et l'UBB ferme ce top 4 avec 64 points. La Rochelle, 62 points, qui est toujours qualifié pour ses finales. Et derrière, c'est très serré, parce que ça se joue à combien ? Ça se joue à 4 points pour accrocher cette sixième place entre, entre Castres, entre l'USAP, entre le Racing, entre Pau. Donc dernier match crucial quand même pour pouvoir disputer ces finales de top 14. Bon, maintenant qu'on a fait un point sur le top 14, on va voir qu'est-ce qui va changer l'année prochaine dans ce championnat. On aura droit à un duel Vannes-Grenoble le 8 juin pour savoir qui va accéder à l'élite du rugby français. Donc rendez-vous le 8 juin pour savoir le résultat. Et on peut être content parce que nos copains Montalbanais, Montauban a battu Narbonne ce week-end pour accéder à la Pro D2. Donc un retour de Montauban en Pro D2, ça fait plaisir.
Moi, je tenais justement à intervenir sur Brive hein, par rapport aux promotions top 14. Il faut savoir que Brive, quand même, a été relégué il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont perdu de justesse contre Béziers. En plus, là, Béziers, qui faisait un bon parcours, a perdu contre Vannes. Mais le pire, c'est quand même Provence Rugby, qui était quand même premier de Pro D2, qui se fait battre par Grenoble, le quatrième. Donc là, ce sera ces équipes-là qui étaient peut-être sûres d'aller en top 14. Et par rapport à Montauban-Narbonne... ça fait plaisir de voir Montauban qui reste en Pro D2, parce que c'est vrai qu'une Pro D2 sur Montauban-Colomiers, il y aura post-derby et tant pis pour Narbonne, hein, qui devra du coup rejouer en National la saison prochaine.
Exactement, tu l'as dit, hein, pour Provence Rugby, c'est la dure loi des playoffs au final, hein, il faut être régulier sur toute la saison. Et malheureusement, face à Grenoble, ils ont perdu, donc rendez-vous quand même le 8 juin pour Vannes-Grenoble pour savoir qui va accéder à l'élite du rugby français. Encore une victoire pour le Toulouse Olympique la semaine dernière, ils nous avaient régalé, on pensait qu'ils jouaient le titre, et bien c'est toujours le cas face à Halifax, nos joueurs du TO13 ont mené 24 à 38 dans un match fou où ils ont maîtrisé le match du début à la fin, ils conservent donc leur 5ème place en RFL Championship, ce qui leur permet bien sûr en fin de saison de jouer les playoffs. Donc Halifax qui était avant-dernier de ce championnat mais qui avait gagné face à Doncaster, les 7e de ce championnat, donc il fallait être très attentif à cette équipe qui pouvait être très dangereuse dans ces moments-là. Toulouse a su faire le job, 4e victoire d'affilée pour nous Toulousains, ça fait plaisir.
Et oui, Halifax pensait gagner contre nous, perdu. Hein. Les Panthers d'Halifax ont été domptés par nous Toulousains, qui ont gagné largement en terre anglaise, hein, alors qu'on est moins bon à l'extérieur qu'à Ernest Vallon, je tiens quand même à préciser. Moi justement, je pensais qu'Halifax allait être plus dangereux, sachant qu'ils ont aligné 4 joueurs français dans ce match. C'est un peu les Frenchies d'Halifax. Ça n'a pas suffi parce que le Théo a dominé les Anglais. En plus, en première période, 5 essais ont été marqués, dont 2 dans le premier quart d'heure. Je tiens à pencher sur Jake Shorrox et Paul Hulberg qui se sont vraiment illustrés avec le Théo. Ils ont fait un match incroyable. En deuxième période, c'était un peu muet des deux côtés, mais ça reste quand même une belle victoire. Hein. Et en 3 rencontres, le Toulouse Olympique est en forme. Hein, je veux dire là, on l'a vu quand nous Toulousains enchaînent des victoires sur victoires. Je pense notamment à Dewsbury contre Barrow et Widnes qui était le plus difficile à battre. Qui sont donc désormais à la 5ème place, et plus en conformité avec les ambitions du club, hein, qui, on le rappelle, envisagent de monter en Super League pour rejoindre les Dragons Catalans de Perpignan. Et le prochain match, Raphaël, le Théo affrontera Doncaster, qui est donc un concurrent direct, et ça va se jouer à Ernest Vallon.
Donc là, il faut supporter nos joueurs du Théo, sachant que maintenant l'objectif est clair, hein, c'est la montée. Il y a la place, parce qu'on n'est pas très loin, on n'est pas très loin du second, on n'est qu'à 3 points. Donc c'est, imaginons le Théo gagne et que les Wolves perdent, il y a un monde où on peut monter en seconde place. Wakefield paraît quand même invincible cette saison en championnat, il file tout droit vers la première division, donc affaire à suivre pour Toulouse, mais on y croit fort quand même parce qu'ils sont sur une très belle dynamique. On va passer au rugby à 7, ça y est, on réduit le nombre de joueurs à chaque fois. C'était la finale de Coupe du Monde de rugby à 7 à Madrid ce week-end. On va commencer, les dames d'abord, on va commencer par les femmes qui ont joué contre l'Australie en finale. Donc nos deux équipes françaises ont atteint la finale. Et malheureusement, elles ont perdu 26 à 7 dans un match quasiment à sens unique où les Australiennes ont dominé le match, où les Françaises n'ont pas réussi à trouver de solution. C'était assez brouillon dans les constructions de jeu. Il n'y avait pas assez de mouvement pour espérer bouger cette équipe australienne. Donc c'est dommage, mais c'est un assez beau parcours quand même pour cette équipe. Ça donne un peu plus encore de lumière sur rugby à 7 avec la venue d'Antoine Dupont. Si les résultats suivent, c'est quand même pas mal. Et puis évidemment, la victoire face à l'Argentine de rugby à 7, des Bleus d'Antoine Dupont, 19 à 5, dans un match maîtrisé, où ils se sont fait peur en début de match, mais évidemment, l'expérience des joueurs a su faire le boulot. La France a gagné à Madrid, la France gagne en Espagne face à l'Argentine. La France qui gagne face à l'Argentine, ça fait plaisir quand même.
Ah putain, ça fait plaisir parce que là, ça faisait depuis je sais pas combien de temps.
J'ai mal depuis 2022, moi.
Ouais, exactement. Ouais, le cauchemar de la Coupe du Monde au foot, là, ça va. Bref, moi en tout cas, je tenais à parler quand même de France-Argentine au rugby. Merci à Dupont quand même d'avoir un peu starisé le rugby à 7 parce que personne ne regardait. En plus, le règlement est très intéressant parce que ça se joue en 14 minutes, donc deux périodes de 7 minutes, donc ça joue à fond, il n'y a que 7 joueurs.
C'est très intense.
Donc là, franchement, le fait qu'on gagne, bah, ça me permet justement à nous, Français, bah, de s'intéresser un peu plus à ce sport.
C'est ça, et j'ai un truc à dire, c'est de très bon augure pour les JO, ça.
Exactement.
Parce que si on gagne comme ça, on est en pleine forme. On peut peut-être amener une médaille d'or, donc on vous tiendra au courant de toute façon pendant ces JO. Et allez les bleus!
Allez les bleus.
Bon, vous l'entendez cette musique? C'est la musique que le stade Geoffroy Guichard et que les joueurs de l'AS Saint-Etienne vont entendre la saison prochaine, enfin, après deux saisons en Ligue 2, après deux saisons sans Saint-Etienne en Ligue 1, quand même ça fait mal, c'est une légende de Ligue 1 qui était absente pendant ces deux dernières années, ils reviennent enfin avec la victoire en poche face à Metz. Au match aller, ils ont gagné 2-1, en fin de match ils ont réussi à accrocher la victoire, et le match nul a suffi pour que nos Stéphanois accroche cette montée en Ligue 1 face à des Messins moins en forme, évidemment, vu qu'ils sont quand même 16e de Ligue 1. Donc la dynamique était différente, malgré que les niveaux soient différents, la dynamique était clairement côté Saint-Etienne. Un retour d'une légende en Ligue 1, et on dit au revoir à nos copains Messins, parce que je sais qu'à Toulouse, on les aime bien.
Eh oui, c'est triste, hein, surtout pour boire, fumer, supporter le groupe de supporters qui sont avec les Indians, qui étaient potes avec Metz. On les verra plus, malheureusement. En vrai, c'est vrai que Saint-Etienne, c'est sympa de les voir en Ligue 1 parce que c'est quand même un club historique.
Oui.
C'est vrai. Mais je tenais quand même à parler du match retour qui était vraiment exceptionnel. 2-2, oui, mais tu vois, Wadji pour Saint-Etienne avait marqué à la 117e minute. Ça veut dire que là, tu pouvais voir les tirs au but. C'était chaud bouillant, mais bon.
C'est le but d'une vie. C'est le but que tu rêves de marquer quand t'es petit. Prolongation, dernière action, tu cours sur tout le terrain. Donc bravo à Saint-Etienne, on a hâte de les revoir la saison prochaine. Donc, ça fait trois petits nouveaux du coup cette année en Ligue 1. Il y a Auxerre, donc, qui a terminé champion de Ligue 2, suivi par le SCO d'Angers second. Et bien évidemment Saint-Etienne qui a réussi à se qualifier face à Metz. Donc, quand même des retours de gros clubs de Ligue 1 qu'on a l'habitude de voir là-bas. On verra la saison prochaine. Hein, je sens quand même une grosse saison peut-être de Saint-Etienne qui est revanchard et qui a hâte de reconquérir les terrains de Ligue 1.
C'est vrai, mais moi je pense quand même au TFC. J'espère qu'ils feront mieux que cette année. C'est vrai qu'on a fini quand même 11e, mais j'aimerais bien qu'ils aient un peu plus d'ambition. Et ouais. Bon, je pense que ça va être compliqué à mon avis.
J'ai trois mots pour le TFC, trois mots. On vise l'Europe.
Voilà.
Visons l'Europe et on espère que la saison prochaine, on aura des belles émissions en parlant des victoires du TEF. Donc on verra ça la saison prochaine. Bon, on vous en a parlé la semaine dernière, la Kings League, l'équipe de France foot de rue. On vous avait tenu au courant, donc, cette équipe de France qui avait réussi à se maintenir pour les barrages de cette Kings League s'est faite éliminer sur un match complètement fou. J'ai envie de parler de l'arbitre quand même, parce que si vous avez vu le match, c'est quand même assez aberrant. Un but gag, hein, on va dire, sur les séances de pénalty, un ballon qui fait arrêter par le gardien, qui va dans les cages, c'est du jamais vu, on voit ça dans les compiles YouTube. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses, Alex, mais c'était affreux.
Franchement, cette compétition, maintenant, pour moi, elle est frauduleuse. Hein.
Faut la boycotter.
Juste quand on l'a vu, alors pourtant, ils avaient bien annoncé, quand la lumière est rouge, le but est refusé. Et bien là, la saison, l'arbitre a sifflé. Il est forcément, tiens, c'était contre qui? C'était contre les Argentins, figure-toi, comme par hasard.
Exactement. Voilà. Donc bon... la France quand même a fait bonne figure, je trouve, sur un mode de jeu de foot, on va dire, qui maîtrisait pas. C'était quand même des bons joueurs de foot, mais c'est un tout autre mode de jeu. C'est beaucoup plus physique parce que c'est beaucoup plus intense. C'est à 7 contre 7, il y a des règles complètement inattendues. Donc on peut être fier quand même de leur parcours, et ils sont éliminés, c'est contre leur volonté. Ils ont bien joué, mais bon, il y a des fautes. L'arbitrage, quoi. L'organisateur Piqué, bon, on vous en a parlé que c'était lui l'organisateur, il voulait le faire en France. Je pense pas que ça se fera en France après le scandale d'arbitrage qui s'est passé. Bon, vous avez vu passer, je pense, sur internet, sur Twitter, sur Instagram. Donc l'aventure s'arrête ici pour l'équipe foot de rue. Ils ont pas fait mauvaise figure, je pense. Donc ils nous ont rendu fiers quand même, et c'est contre leur volonté qu'ils sont éliminés de cette Kings League. On a fait un petit tour au Mexique, on va reprendre l'avion et reposer nos valises en Europe, puisque y a bientôt l'Euro qui se prépare, l'Euro 2024. Donc, bien évidemment, qui dit Euro 2024 dit match de préparation, parce que évidemment, il faut bien se préparer. Donc, il y a eu trois matchs, nous, qu'on a retenu avec Alex, c'était Portugal-Finlande, le Portugal qui a cartonné face à une Finlande assez faible, mais qui a réussi à quand même marquer deux buts et à faire face à ses Portugais, Bruno Fernandes en forme olympique, hein, juste avant l'Euro, donc c'est parfait. Ronaldo n'a pas joué, mais bon, je pense que maintenant, il a plus un rôle de cadre qu'un rôle de joueur, joueur clé dans l'équipe. Il fait du bien, je pense, pendant les entraînements, tout ça. Donc, mais le Portugal en grande forme avant l'Euro. L'Italie, par contre, qui pêche un peu face à la Turquie, donc 0-0. On a vu les hommes, les coéquipiers de Federico Chiesa, en doute, hein, face à une équipe turque pas si forte que ça. Mais on y croit, après, on sait qu'ils sont tenants du titre quand même de l'Euro 2020. Donc on y croit quand même pour l'Italie. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, Alex, supporter italien quand même.
Je supporte aussi l'Italie, mais pour te dire franchement, c'est normal que l'Italie justement galère à chaque fois avant les compétitions. C'est toujours comme ça. Maintenant, on a pris l'habitude. Donc en vrai, j'espère que les prochains matchs, l'Italie se relèvera, parce que quand même contre la Turquie 0-0, c'est pas terrible.
Il vaut mieux faire ces mauvais matchs maintenant. Et ce soir à 21h, c'est la France qui joue contre le Luxembourg. Donc la France doit se rattraper après ces deux mauvais matchs amicaux, hein, face à l'Allemagne et le Chili, on s'en rappelle, c'était catastrophique. Mbappé, c'était évidemment un gars perturbé, hein, il était très perturbé. Donc on espère un retour en forme du nouveau joueur du Real Madrid, évidemment. Il y a aussi le retour d'N'Golo Kanté qu'on suivra de près, et les nouveaux Warren Zaïre-Emery. Et Bradley Barcola, on espère vous faire leur apparition pour voir qu'est-ce qu'ils donnent sous la tunique bleu-blanc-roux. Donc rendez-vous ce soir à 21h. Pour France-Luxembourg. Bon, fini le foot, fini le rugby, on va parler de tennis, parce qu'en France, à Paris plus précisément, il se passe un tournoi, c'est Roland-Garros, vous le savez. On va faire un petit point quand même sur ce tournoi de tennis incontournable. Évidemment, comme d'habitude, à partir des quarts de finale ou des huitièmes, plus aucun Français à Roland-Garros. Corentin Moutet, le dernier Français, a été éliminé en 4-7 face à Sinner. Hein, il avait gagné le premier set, donc moi j'y croyais, franchement, à l'exploit de Corentin Moutet, qui est un peu la nouvelle figure du tennis français. Il a un peu une grande gueule. Donc il fait bonne figure, on a espoir peut-être pour les prochaines années. Donc les Français, qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexandre? Ouais, Roland-Garros.
Ah, voilà. Ça fait peur, question hein. Difficile, ça fait peur effectivement, mais en vrai Moutet, c'est une bonne augure pour le prochain Roland Garros, parce que c'était quand même pas mal ce qu'il a fait. Bon, malheureusement il tombe sur plus fort que lui, qu'est-ce que je te dise, hein. D'ailleurs, justement, à propos de Yannick Sinner, si je me permets, là actuellement c'est devenu le premier mondial. Tu sais pourquoi? Parce que là Djokovic est forfait. Il a été forfait contre Casper Ruud, parce que on se rappelle du duel Cerundolo-Djokovic, énorme duel, vraiment le match a duré 4h30. Ça s'est joué au moins en 5-7, dis-toi. Enfin,
ouais,
3-7 à 2. Ouais, c'est ça. Au départ, il perdait Djokovic. Puis là, d'un coup, tu sais pas pourquoi, il a un regain de motivation. Après, c'est plein de la terre battue. Roland Garros, là, il est inarrêtable. J'ai pas compris qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment-là. Mais voilà, le fait qu'il s'est fait mal, justement, à cause de ça. Forfait. Et justement, à propos d'Yannick Sinner, forcément, là, il va affronter Alcaraz, bien sûr. Puisque. C'est quand même pas mal, Alcaraz, 3e mondial, face donc au premier mondial, voilà, Yannick Sinner. Et je pense que pour moi, c'est un duel tant attendu, et franchement, ça promet dans une compétition prestigieuse comme Roland-Garros. Hein.
Exactement. Et Djokovic, d'ailleurs, petite nouvelle, qui est en train de se faire opérer actuellement à Paris. Donc on attend des nouvelles au plus vite, mais c'est sûr qu'après le forfait de Djokovic, Sinner passe premier. Et on aura donc un nouveau gagnant inédit de Roland-Garros, une première depuis 2004, hein, c'est parce qu'avec Federer... Avec Djokovic et avec Nadal, c'était les trois seuls qui gagnaient Roland-Garros depuis 2004. Depuis 20 ans, c'était les trois mêmes gagnants. Et pour une fois, on aura un gagnant différent. Donc ça fait plaisir. On aura donc soit Carlos Alcaraz, soit Yannick Sinner, soit Casper Ruud, soit Alexander Zverev, qui va affronter Casper Ruud le 7 juin. Et Carlos Alcaraz et Yannick Sinner le même jour. Donc on aura la finale le 9 juin, la finale de Roland-Garros le 9 juin. Donc la semaine prochaine, on vous en parlera évidemment. On part en Italie pour la MotoGP, le sport auto est encore à l'honneur sur temps additionnel. C'est donc sur ce Grand Prix d'Italie, Francesco Bagnaia qui a remporté la victoire juste devant Bastianini et Jorge Martin. Jorge Martin toujours donc premier mondial, hein, qui n'est toujours pas devancé par Francesco Bagnaia, mais Bagnaia arrive, hein, il est plus qu'à une vingtaine de points. Bastianini, c'est la surprise, hein, quatrième quand même qui a réussi à faire une très bonne course. Et puis nos Français, on va faire un petit point sur les Français, c'est assez inquiétant. Il est loin à l'époque 2021, comme je l'avais dit, avec Quartararo, champion du monde. Quartararo donc 18e et Johan Zarco 19e, donc deux Français de suite. Fabio Quartararo au guidon de sa Yamaha et Johan Zarco au guidon de sa Honda.
Franchement, je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi Quartararo est à la 18e place et Johan Zarco à la 19e. Alors c'est vrai que ça se passe à Mugello en Italie, donc forcément on s'attendait à voir au moins deux Italiens sur le podium. Et franchement, c'est dommage pour eux, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je pense peut-être au prochain Grand Prix, s'ils font quelque chose, c'est pas mal.
Mais moi, pour moi, c'est la moto, parce que les pilotes, il n'y a rien à dire dessus. Et on aura une belle bataille à 3 quand même devant pour le championnat, parce qu'il reste quand même pas mal de courses. Jorge Martin est bien évidemment favori. Et Francesco Bagnaia donc, a prolongé aussi chez Ducati. Donc on verra ça, ça va être intéressant la saison prochaine et ça va être intéressant cette fin de saison parce que rien n'est joué pour l'instant. Avant de terminer sur le Phoenix, on va refaire un point quand même sur le MMA. On vous en avait parlé la semaine dernière, mais l'Hexagone MMA se déroule ce week-end à Toulouse. Ben on verra donc deux titres mondiaux se jouer, on verra des débuts en MMA pour plusieurs combattants. Donc ça va être très intéressant, ça va être très varié. Donc on vous invite à venir là-bas et avec Alex évidemment, on sera là-bas, on sera à la conférence de presse le vendredi à 14h30 et on sera à l'événement à partir de 20h là-bas pour faire votre envoyé spécial. Et comment suivre les aventures ? Ben, il faut s'abonner au compte de Instagram de Radio Esprit Occitanie pour suivre un peu les backstage, comment se déroule une conférence de presse, comment se déroule un événement aussi gros sur Toulouse côté presse. Si ça vous intéresse, ben, allez-y, allez voir les stories, elles seront disponibles dès ce week-end. Donc on essaiera de vous faire vivre cet événement à travers le téléphone. Et puis bon, on souhaite bonne chance à nos Français parce qu'il y a beaucoup de Français et il y a beaucoup aussi de Toulousains. Donc de toute façon, on vous fera un résumé sur les stories Instagram, donc restez branchés. Et pour finir, un mot du Phoenix hein, qui a perdu face à Montpellier 33 à 25, donc défaite où les Toulousains, ils ont su résister quand même jusqu'à la mi-temps, mais à partir de la seconde période, les phases offensives montpelliéraines, elles étaient bien trop insistantes, et les joueurs de Phoenix n'ont pas réussi à faire bloc. Quand l'équipe en face arrive à enchaîner des phases à 5 ou 6 buts d'affilée sans s'en prendre aucun, ça doit mettre un coup quand même au moral, et malgré tout ça, la défaite, elle n'a aucun impact au classement quand même, hein. Montpellier reste 3ème, et la médaille en chocolat revient donc aux joueurs du Phoenix qui décrochent leur place en Coupe d'Europe. Donc on était sorti pendant un moment, je me rappelle, vers la période de mars, tout ça, on était sorti de ce top 4. On a réussi à redépasser Limoges. Bon, la série de 3 victoires d'affilée est cassée par Montpellier, donc c'est pas plus fort que nous techniquement sur le papier. Donc bon, pas de regret pour nos joueurs toulousains qui sont qualifiés quand même en Coupe d'Europe pour la saison prochaine, qui ont fait une très bonne saison, qui terminent devant Limoges. Et on leur souhaite bonne chance pour la saison prochaine.
Exactement, on leur souhaite tout le bonheur pour la saison prochaine en Europe. En plus, ça va être vraiment pas mal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué la Coupe d'Europe. Et puis, de toute façon, comme tu disais, par rapport à la défaite, là, vu qu'on avait 3 séries de victoires, franchement, ça avait aucune importance parce que dans tous les cas, si on gagnait, qu'on perdait, dans tous les cas, on était qualifié pour l'Europe.
Le job était déjà fait
dans les matchs les plus importants que Montpellier. Montpellier, c'était juste comme ça. On a voulu s'inviter. Bon, ils nous ont rejetés de la fête, c'est ce vrai que je te dis.
Mais après, même Montpellier n'avait rien à jouer, donc bon. Mais ils ont quand même bien terminé la saison, eux, contrairement à nous. Mais bon, on souhaite bonne chance aux Toulousains. Allez, Toulouse, la saison prochaine. Hein. Avant de terminer l'émission, on va faire un petit point sur ce qui va se passer la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'abord, qu'est-ce qui se passe ? C'est le Stade Toulousain qui va clôturer sa saison de top 14 avant les playoffs face aux Loups, les Lyonnais, donc avant-dernier ce championnat. Donc il faudra mettre la patate pour le dernier match pour les Toulousains. On espère qu'ils alignent l'équipe type pour nous régaler une dernière fois avant les playoffs. Il y aura aussi la finale de Pro D2, Ernest Vallon, Vannes, Grenoble, le 8 juin, on en a parlé. Il faudra rester branché aussi. La F1 revient avec le Grand Prix du Canada, le circuit Gilles Villeneuve, donc qui a vu couronner les plus grands. Donc Gilles Villeneuve, Jacques Villeneuve aussi, Ricardo, qui a effectué sa première victoire en 2014 là-bas. Donc c'est un Grand Prix à suivre, parce qu'aussi le championnat est totalement relancé en Formule 1, on l'a vu avec la victoire de Charles Leclerc, qui revient plus qu'à une trentaine de points de match Verstappen. Donc les dés sont totalement relancés juste avant la trêve estivale qui va arriver bientôt, juste après la Belgique. Donc les dés sont jetés, ça peut être une saison beaucoup plus intéressante que la saison dernière, et même Ferrari ou même McLaren reviennent sur Red Bull. Et on a appris aussi quelques départs en Formule 1, on va vous le dire quand même. C'est Esteban Ocon qui va quitter Alpine la saison prochaine. Donc Pierre Gasly était préféré à Esteban Ocon. Il a fait ses années là-bas, donc bon, c'est à son tour de trouver une nouvelle équipe. On le voit peut-être soit chez, idéalement chez Mercedes, il a été troisième pilote, mais le plus probable serait Haas. Et Sergio Pérez a prolongé, malgré ses mauvais résultats, Sergio Pérez a prolongé chez Red Bull. Donc on le verra encore dans un bac à Red Bull la saison prochaine. On va parler aussi, la semaine prochaine, on va faire un point sur l'Hexagone MMA. Donc on intégrera des interviews parce qu'on va interviewer trois combattants. Un champion qui va jouer son titre de champion, un nouveau Toulousain et une nouvelle combattante aussi qui va débuter sa carrière en MMA. Et aussi, on va parler un peu de foot la semaine prochaine puisque c'est J-8 avant l'Euro 2024. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. C'est encore une fois régalé avec Alex à écrire l'émission, à faire les petites recherches, tout ça, et à l'enregistrer. Franchement, la semaine prochaine, il y aura quand même pas mal de choses. On vous le dit, restez branchés sur le compte Instagram de Radio Esprit Occitanie. Merci à l'équipe encore une fois de nous accueillir. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Alex, de l'émission?
Franchement, c'était pas mal. Surtout, moi, j'ai adoré la prestation du stade toulousain. C'était sympa, tout ce qu'on a parlé. Bien sûr, là, j'ai hâte du Hexagone MMA. J'ai hâte de plein de choses là, qui vont arriver dans pas longtemps. Franchement, restez branchés surtout
sur Radio Esprit Occitanie. Tous les championnats se terminent, mais l'Euro, la F1, tout ça continue. Même les playoffs de Top 14 continuent. Donc, avec Alexandre, on vous dit à la semaine prochaine.